là. On est tout content parce que le direct démarre. bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être là avec nous en direct, cette fois en live sur FB avec nos amis et relations publiques de l'espace Omaté. Je voulais dire Christelle Marty. Bonjour Christelle.
Bonjour.
Vous êtes toujours psychologue et psychanalyste?
Oui, depuis la semaine dernière.
Oui, depuis la semaine dernière. Et à côté, j'ai Lynn Didier, qui est kinésiologue, praticienne en EFT.
Bonjour Serge.
Bonjour. Ça va?
Ça va très bien.
Vous n'avez pas croisé de pervers narcissiques cette semaine?
On a dû en croiser, mais ils nous évitent.
D'accord. Depuis deux semaines, on envoie des articles que vous rédigez. On a eu le témoignage également d'une victime de pervers narcissiques. Et ce que je vous disais, en regardant les statistiques Facebook, figurez-vous que ça intéresse beaucoup les hommes.
Bah, apparemment.
Contrairement aux autres publications habituellement. Donc il y a quand même quelque chose, non, avec les humains?
Bah oui.
D'accord.
Les humains, merci à ces messieurs
oui,
de
merci.
Lire nos articles.
Tout non, mais c'est que ça doit les questionner.
Oui, mais ça doit les questionner, oui, effectivement, parce que c'est compliqué. Enfin, je trouve qu'aujourd'hui, pour les hommes, c'est aussi un petit peu compliqué, notre société.
Oui.
On va quand même donner un petit coup de pouce aux hommes.
Ouais, bon,
on va les aider.
Non, mais parce qu'il y a une idée reçue comme ça qu'un pervers narcissique, c'est au masculin. Mais
alors,
je m'y oppose.
Il y en a plus, mais il y a effectivement aussi des femmes perverses. Et elles ont... Elles savent faire.
Oui, il paraît. Oui, ça n'a aucun rapport avec le sexe.
Absolument
tout
pas.
Ça. Non. Et ce n'est pas une pathologie non plus.
Non, c'est pas une structure organisationnelle.
D'accord. On peut rappeler un peu comment ça démarre, un peu à l'enfance ou... Ça démarre forcément à l'enfance ou alors est-ce qu'il peut arriver à l'adolescence ou à l'âge adulte?
Alors non, ça démarre vraiment à l'enfance, au niveau neuronal et la structure cérébrale. Chez les enfants, donc le cerveau est très malléable, il prend, il intègre, il traite, et les cerveaux des enfants sont complètement neutres, hein. Ce qu'ils veulent, c'est apprendre, traiter, aimer, réguler leurs émotions et leur perception, leur contexte. Mais non, ça démarre à l'enfance, effectivement, lorsque la structure familiale est dysfonctionnelle.
D'accord. On avait vu le film Le cerveau des enfants et on sait que donc il n'est pas fini.
Il est en
construction, donc ça me prime. Ça laisse des cicatrices. Hein. Je ne sais pas comment
alors,
on peut expliquer ça.
Alors, ça laisse. En fait, ça déstructure complètement la structure neuronale chez l'enfant et il y a une cristallisation au niveau de l'adolescence et ensuite le câblage est fixé. À l'âge adulte pour le pervers.
D'accord.
Qui est indécablé, indécablable.
Donc c'est la faute des parents ou des grands, tout ça?
Des parents, de la famille ou de ceux...
Ou de l'oncle pervers qui vous massacre.
Il y a de toute façon une figure dysfonctionnelle dans l'entourage de l'enfant, c'est sûr.
D'accord. Alors on attend que les auditeurs arrivent hein, sur le live, parce que tout le monde pourra poser des questions, éventuellement, et vous interroger. Mais moi j'en ai quand même quelques-unes.
Allez-y.
Christelle, vous nous avez fait un bel article qui dit « Il faut se reconstruire ».
Oui.
Et s'en sortir déjà. Bon, ben, on l'avait vu l'article, blacklistez-le. C'est la plus grande punition qu'on puisse faire à un pervers narcissique, c'est de l'ignorer, quoi.
Exactement. Il supporte pas, il n'existe plus. Donc, comme c'est quand même, on le voit dans le terme, narcissique, son problème majeur, c'est le narcissisme. Donc, si vous ne le voyez pas, si vous ne l'écoutez plus, si vous le bloquez, c'est insupportable pour lui.
D'accord. Donc, il va essayer...
Souvent, on va passer par des phases de harcèlement, de victimisation, de pleurs, etc. Et c'est pour ça que la victime, elle a intérêt à être solide pour ne pas retomber dans cette emprise-là et faire comme si il n'existait pas.
Dans le témoignage de la victime, justement, elle explique que quand elle l'ignore un peu, au bout d'un moment, il revient, il refait son coup de charme, il l'endort, quoi.
Et oui.
Et elle se reproche elle-même d'avoir été dure avec lui ou quelque chose comme
tout
ça.
Tout à fait, parce que c'est vraiment la manière de fonctionner du pervers. C'est-à-dire qu'il va passer de l'idéalisation à la dévalorisation. Et dès que la victime va être un petit peu fragilisée, hop, il va arriver, il va la remonter un petit peu avec des cadeaux, avec des qualificatifs extraordinaires. Et la victime va retomber dedans jusqu'au moment où elle aura la force de se rendre compte que, en fait, c'est ça l'illusion.
D'accord. L'illusion de l'amour.
Exactement.
C'est un piège, en fait, un piège amoureux.
Parce que la victime est amoureuse de l'amour.
D'accord. Et oui. C'est vrai qu'on est un peu trop naïf des fois.
Exactement.
Et quand on aime quelqu'un, on a envie de lui pardonner. Ou de lui trouver des excuses, de se dire voilà, c'est pas de sa faute.
Tout à fait, puis de le changer, de l'aider.
Des fois, on se reproche à soi-même aussi.
Ah bah oui,
c'est moi qui ai été trop dur. C'est moi qui...
Ça, c'est tout l'art du pervers. Hein.
Oui.
C'est tout l'art, la manipulation.
C'est bien, avec vos articles, on apprend à le devenir. Non, j'ai plaisanté. Si on peut aider la victime, est-ce qu'on peut aider le pervers? Est-ce que c'est guérissable, entre guillemets, ou soignable ou...
Absolument pas.
Ah mince.
Absolument plus.
Quand on est pervers, c'est pour la vie, quoi.
Pour la vie, oui. Alors, on n'est pas pervers. Hein, le verbe, vraiment, on ne naît pas pervers, mais on le devient. Après, c'est vraiment figé, comme je disais tout à l'heure. C'est câblé. Il est câblé. Ensuite, il y a une cristallisation en fait au niveau neuronal. Il y a vraiment. On a trois cerveaux et au niveau de trois cerveaux, donc reptilien, limbique et néocortex, vraiment la régulation des émotions, de l'impulsion, l'inhibition sociale, on va dire.
Ouais.
Si vous aimez le chocolat. ou la tarte, ou votre cerveau préfrontal, lui, va temporiser. Ok, non, je peux pas, j'ai du diabète. Et ça, c'est un exemple. Pour le pervers, il n'en a plus. Donc, il ne sait pas. Il y a plus de contrôle sur l'impulsion et sur les émotions. Non, il n'y en a plus, il n'y en a pas, d'ailleurs.
D'accord.
Donc, c'est pas possible de changer ça. Il y a vraiment une boucle qui se fait au niveau des cerveaux.
Ça rappelle un peu les trucs des psychopathes ou des tueurs en série qui manque quelque chose, qui est le remords ou l'empathie même.
Oui, alors il y a une étude très très intéressante qu'un médecin a faite sur les émotions,
ouais.
James Fallon, qui dirigeait une étude sur les émotions. Et il s'est aperçu dans sa vie qu'il était froid, qu'il avait un câblage assez similaire en fait, aux sociopathes et aux psychopathes. Je ne classifie pas le pervers, hein, parce qu'il est inclassifiable de la pathologie, enfin des psychopathologies. Mais il s'est aperçu, en fait, en faisant une IRM sur lui, qu'il avait le même câblage que le pervers, que le sociopathe ou le psychopathe.
D'accord.
Alors, lui, il a eu la chance d'avoir une maman ou une figure qui a pu l'entourer, le sécuriser, ce qui a permis qu'il ne devienne pas sociopathe ou psychopathe ou pervers. Mais il y a le même fonctionnement, le même câblage neuronal.
D'accord. Faites attention à ce que vous faites avec vos enfants ou vos neveux, parce que là, après, c'est irrécupérable, quoi.
Oui.
Bah, c'est impressionnant. Bah, je rappelle aux auditeurs qui nous rejoignent petit à petit sur le live, qui peuvent poser des questions en commentaire, et que l'on fait cette émission en préambule à la conférence qui aura lieu demain, vendredi, à 20h, à l'espace Omaté, à Saint-Saturnin, les Avignons.
C'est ça.
Et là aussi, ce sera interactif, on pourra discuter avec vous et en parler. Cette semaine, on parlait surtout des vous dites que ça abîme le cerveau de la victime ou du...
Tout à fait.
Voilà.
Bien sûr, il y a il y a vraiment un décablage. Je parle beaucoup de câbles parce que vraiment neuronalement, enfin cérébralement, c'est plus limpide quand on parle de câblage. Au niveau de la victime, effectivement, il y a vraiment à peu près le même fonctionnement. À un moment donné, quand la victime arrive sur l'humiliation, enfin quand le pervers insiste sur l'humiliation, la dévalorisation, comme disait Christelle, il y a un décablage du préfrontal.
D'accord.
Pareil. Donc je ne peux plus comprendre, je ne sais plus, je ne peux pas réagir, comment je fais, d'où la reséduction du pervers à chaque fois, et la victime ne peut plus. Je ne peux plus reculer, je ne peux plus penser, et elle va être câblée. Alors là, c'est défigeable. Voilà, ça se dit pas, mais je l'invente.
D'accord.
Avec la psychothérapie et bien sûr les thérapies alternatives, il y a vraiment le préfrontal, lui, là, chez la victime, qui va se figer un petit peu, et elle va être juste câblée en dopamine. Et
dopamine, c'est l'hormone du plaisir.
C'est l'hormone
la récompense ou...
Tout à fait.
Ouais.
Mais ça sera la récompense à l'envers. Ça
D'accord.
sera je suis câblée pour avoir peur maintenant. Et j'attends. C'est terrible.
Ah oui, ça crée des connexions neuronales spécifiques.
Tout à fait, oui.
D'accord.
Et vous voyez une victime d'un pervers qui vous dit « Mais je sais ce qui se passe. Je sais, mais je ne peux pas. Je peux pas me défaire. »
Mon Dieu, mais c'est horrible. C'est une toile d'araignée.
Exactement.
Ah, exactement, ouais. Oui.
Et donc, elle est câblée pour avoir peur et pour rester. Et la phase de reséduction va réalimenter. Mais vraiment, c'est un système neuronal très, 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 très précis.
Dans votre prochain article, Christelle, ce sera le pervers narcissique face aux professionnels.
Oui.
Quels sont les professionnels qui peuvent aider?
La difficulté des professionnels, surtout quand ils travaillent dans la petite enfance, dans la justice, ils vont avoir affaire à des famille dysfonctionnante, justement. Mmh. Et je le vois assez régulièrement. Dans un grand nombre de cas, les professionnels qui font les enquêtes sociales vont être très souvent admiratifs du parent pervers parce que, en première intention, c'est le parent qui souffre.
Ah oui.
Et oui, parce qu'il sait faire ça. Il sait montrer sa souffrance. Oui. Il est victime. Ouais. C'est souvent lui qui va dire que l'autre est pervers, d'ailleurs. Et donc, il va un peu embobiner le professionnel. Et dans un certain nombre de situations, j'ai vu vraiment la situation se retourner contre le parent protecteur.
Ah oui, carrément.
Oui, avec des enfants qui partent vivre chez le parent pervers.
D'accord. Oui,
par
j'ai eu aussi des situations
de compréhension, où, en fait, du mécanisme.
Où le pervers accuse la victime d'être méchante et de.
Et puis, il sait faire. Il pointe tous les défauts du parent protecteur parce qu'il n'y a pas de parent parfait. Mmh. Donc lui, il va minimiser tout ce qu'il a fait, mais par contre, il va pointer tout ce que l'autre fait. Et quand vous avez des personnes qui ne sont pas formées ou qui n'ont pas travaillé sur elles. Eh ben, elles peuvent très facilement tomber dans le panneau. Et
oui.
C'est très grave.
C'est le cas de le dire. Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'on on parle de l'EFT, là. C'est vous, hein, oui. Aline. Ça peut aider aussi. C'est un des outils qui permet de s'en sortir.
Alors pour moi, oui, c'est l'un évidemment, des outils qui va pouvoir recâbler vraiment une connexion avec les trois cerveaux. Alors, neuronalement, cette thérapie agit sur le système cérébral.
Oui.
Quand la victime ne peut plus réagir et n'a plus de contrôle sur la régulation émotionnelle, l'EFT va agir sur les trois cerveaux avec une distillation émotionnelle et un traitement des informations. Voilà. Et on va réussir très rapidement, d'ailleurs, à pouvoir reconnecter, je dirais, tout le système cérébral.
D'accord, mais concrètement, ça marche comment ?
C'est avec des... Alors, l'EFT, c'est du tapping.
Oui.
C'est une thérapie énergétique, on va dire, psychologie, comment on dit, je ne sais plus, psycho-énergétique.
Psycho-énergétique, voilà.
C'est beau, c'est très très beau, qui agit au niveau des méridiens, puisque les méridiens, ce sont des portes d'entrée de sortie électrique, on va dire, hein, comme des petits câbles partout connectés à votre corps, à vos organes et à votre cerveau. Donc en sollicitant les méridiens,
avec
du tapping, d'accord. On va et des phrases, une phrase particulière, c'est un process. Hein, on va réussir à recâbler le cerveau et à, alors c'est pas du conditionnement cérébral, mais on peut parler quand même de fluidité.
Réorientation ou d'aide,
tout à fait, de rééquilibre.
Mais
en fait, neuronal.
Ce genre de rendez-vous avec un pro comme vous, c'est après s'en être libéré du pervers ou est-ce qu'on peut pendant qu'on est encore dans son jeu, prisonnier de son emprise, aller venir.
Ça va dépendre. Moi, j'en ai reçu en plein dedans, en plein dans la situation. Et, c'est vrai que avec Christelle, on aime. On partage vraiment. On essaie d'être cohérente et de jumeler en fait les thérapies, la psychothérapie et l'EFT, qui sont très puissantes et qui ont une action très rapide. Donc oui.
Ah, très rapide,
ah, très
c'est
rapide.
Ce que j'allais vous demander. Il faut du temps, parce qu'on imagine qu'il faut énormément de temps pour s'en sortir.
Alors du temps, le temps, je dirais qu'il est...
on est
alerte.
En live.
Oui, non,
nous sommes en live, en direct.
Parce qu'on est surtout à Avignon et que le parking coûte cher. C'est une alerte qui me dit qu'il faut que je remette mon parking à l'heure. D'accord, mais c'est pas grave.
Le temps, il est vraiment, c'est très aléatoire. Je dirais que lorsque la victime a réalisé, elle conscientise qu'elle est dans la situation et victime de l'emprise, elle a déjà réalisé une grande partie du travail. Ensuite, elle fait appel au thérapeute et ça va très vite. Alors, on ne peut pas vous dire, donner d'espace-temps là-dedans. Hein, c'est vrai qu'on peut s'en sortir très rapidement.
D'accord.
En tout cas, c'est vrai que le premier pas, c'est quand la victime ouvre la porte d'un thérapeute parce qu'elle a pris conscience qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et à partir de là, elle va commencer à se poser les bonnes questions, aidée par un thérapeute. Et elle aura la chance, si elle le veut,
oui.
ou si elle le peut,
alors une opportunité,
pouvoir s'en sortir.
Quoi, de oui. pouvoir s'en sortir. Mais il faut quand même petit à petit prendre conscience qu'on est victime.
Exactement.
De quelque chose.
C'est le plus gros travail. Ouais.
Mais la victime, souvent, elle ressent quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose où elle n'est pas bien, où elle est malheureuse, même si après, il y a l'emprise. Mais dès le départ, elle sait qu'il y a un truc qui ne fonctionne
ouais.
pas.
Oui, parce qu'on sait que quand on nous aime, il y a des fonctionnements qui font qu'on prend soin de nous, on fait,
et oui, parce
on nous prête de l'attention. Je pense
que la victime,
le pervers s'en fout complètement.
Bah oui,
complètement.
La victime, ouais. elle a quand même de l'empathie.
Oui.
Donc elle sait ce que c'est que le rapport à l'autre, que l'amour. Et donc quand elle se reçoit autant d'horreurs, elle sait aussi au fond d'elle que c'est pas normal.
C'est
donc,
pas de l'amour.
Donc même si elle l'accepte, elle le supporte, elle l'excuse. Au fond d'elle, elle sait qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne.
Ouais. Il y a peut-être aussi la peur d'être seule, comme dirait Dalida à l'époque. Mais, non, on reste parce qu'on a peur de, voilà, de se retrouver.
Mais c'est un des premiers, une première phase
on préfère
qui
souffrir,
met en place. Ouais. Il isole, il vous isole en fait, et vous ne dépendez que de lui. Sans sans lui, je ne suis plus rien. Effectivement, c'est quand même un des premiers items quand même.
Oui, et puis la victime, elle n'est pas choisie par hasard. Ouais. Et
non, c'est mais souvent c'est de la part de la victime, souvent on a peur d'être seul.
Oui,
on s'accroche à un couple qui est mourant ou qui est même néfaste.
Mmh. Et puis surtout, la victime est choisie à un moment de sa vie où elle est beaucoup plus en fragilité.
Mmh.
Soit il y a pu y avoir une séparation, un deuil, quelque chose. Et justement, cette notion de solitude, le pervers, il va rentrer dedans.
Est-ce qu'on peut arriver à de la violence physique ?
Oui,
parce que là,
oui.
on parle souvent de psychologique, là, d'emprise, mais on peut se faire mal, quoi.
Bien sûr. Ah oui.
On peut faire mal à sa victime.
Bien sûr.
Et la victime peut se rebeller. Et... On a vu des cas, des procès où,
bien sûr.
Où la victime tue le...
Oui, il n'est pas.
Le mari.
Il n'est pas forcément violent, en grande majorité. Mmh. Mais alors, il commence par détruire, casser des meubles, il fait peur, et puis ensuite, il peut effectivement arriver à la violence.
Ouais. Oui.
Même si la victime se rebelle et se défend, de toute façon, il y aura encore la phase de reséduction. Pardonne-moi.
Je t'aime. Machin.
C'est vraiment.
D'accord. C'est impressionnant quand même.
Oui.
Parce que c'est une espèce de cercle vicieux qui...
Tout à fait.
Voilà, c'est un piège. J'ai du mal à croire que ça soit conscient de la part du pervers. Comme on en parle, je me dis, oh, putain, c'est inconscient quand même.
Non,
il fait ça comme un serpent.
Il y a une jouissance à détruire l'autre. Donc, c'est pas... La jouissance, quand il fait mal à l'autre, quand il détruit l'autre, c'est pas du tout inconscient. C'est, il jouit vraiment de voir sa victime souffrir.
D'accord.
Donc, le côté inconscient, non, je suis trop d'accord.
Moi, je suis d'accord. Il n'y a pas de côté inconscient parce qu'il est câblé pour contrôler, pour manipuler et pour faire mal. Il est câblé pour ça.
Oui, d'accord. Bah oui,
il est câblé.
C'est une machine à douleur.
Exactement.
D'accord. On me demande, est-ce qu'il y a un rapport entre le syndrome de Stockholm et l'emprise du pervers narcissique?
Ah oui,
vous savez,
ça pourrait
le syndrome de Stockholm, on tombe amoureux de son kidnappeur.
On peut l'assimiler, oui.
Ouais, il y a quelque chose comme ça.
Oui, on tombe amoureux
de son kidnappeur,
de son bourreau, tout à fait. Ouais.
D'accord. C'est du masochisme un peu, en fait.
Non.
Parce que s'il nous fait mal et qu'on s'y attache...
Non, c'est comme disait Aline, à un moment donné, le cerveau de la victime est reconditionné et donc ça devient sa normalité. Et donc, à partir de là, on peut tout lui faire.
D'accord. On me demande également si les sectes, dans les sectes, les gourous, est-ce qu'on peut les comparer à des pervers narcissiques ? Les gourous dans une secte.
Ah oui, complètement.
Voilà.
Vous êtes
donc on peut aussi être un pervers, mais de groupe.
Tout à fait.
Mais c'est,
voilà. Parce que on parle de la relation de couple, mais en fait, on peut étendre...
Mais c'est souvent le cas quand on voit les sectes.
Ouais.
Le petit chien qui est trop
beau. Il s'intéresse à la conversation.
Mais ils sont très solaires. Hein, ces personnes-là sont des orateurs exceptionnels. Ils vont vous convaincre.
Et on s'étonne parce que ils ont de l'influence. Quand on voit par exemple les reportages sur Raël qu'on voit en ce moment sur Netflix, c'est impressionnant. Comment autant de gens peuvent croire que les extraterrestres demandent une ambassade et continuent à donner de l'argent à ce monsieur qui depuis plus de 30 ans, les balade.
On est sur le conditionnement cérébral, hein, vraiment. Vraiment,
d'accord.
Il y a l'aspect cérébral, vraiment. Moi, j'insiste là-dessus parce qu'il y a un câblage particulier. Hein.
D'accord. Alors, encore une question avec les politiques. Est-ce que pour réussir en politique, le pouvoir rend-il pervers narcissique ?
Il ne le rend pas. Je pense qu'ils le sont. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à bien monter dans les échelons.
À bien manipuler. Ouais, exactement.
Parce qu'il y a vraiment séduction, trahison.
Ils n'ont aucune empathie. Donc, en fait, ils foncent.
D'accord.
Ils peuvent écraser tout le monde, ça leur pose aucun problème. Donc, donc
ils n'aiment personne.
Et souvent, ils ont une femme, parce que c'était qui c'est les Américains, non ? Derrière un grand homme, il y a souvent une femme.
Oui.
Et donc, ils sont souvent. Il faut être un couple pour être président. Il y a cette idée de la première dame. On me demande chez les animaux, ça n'existe pas, ça. Il n'y a pas d'animal pervers narcissique.
Non, parce qu'ils sont sur des instincts primordiaux. Donc,
ouais. Puis au moins ils sont honnêtes.
Ils sont sur mode reptilien.
Reptilien et survie.
C'est la même chose. Mais ils ont un système limbique, les animaux développés.
D'accord. Vraiment. Par contre, nous, on peut être des maîtres pervers sur un animal.
On voit la maltraitance des animaux.
Parce qu'ils nous adorent et nous veulent. Ils sont victimes. Enfin, ils sont dépendants, 100%. Donc on peut vraiment jouer avec ça.
Oui.
La conférence de vendredi, demain, à 20h, à l'espace Omaté.
Oui.
Ça va démarrer comme ça. Comment elle est organisée ? Il y aura des questions-réponses ?
Alors, il va y avoir tout le travail que l'on a fourni en amont, qu'on va venir exposer aux personnes qui seront là.
Mmh.
Et à la fin de la conférence, il y aura effectivement un temps de questions-réponses.
Oui.
Parce que c'est important aussi.
Oui, parce que le titre de la conférence, c'est comment s'en détacher.
Oui.
Enfin, c'est inclus dans le titre, oui.
On donne les outils et après on pose les questions.
D'accord. Donc les outils, il y a quoi ? La psychanalyse ?
Oui, l'EFT. Après, il y a aussi beaucoup d'autres.
La psychanalyse, ça peut aider quand même à prendre conscience, quoi.
Tout à fait.
Et savoir qu'on est important, reprendre sa valeur.
Oui, tout à fait. Et puis comprendre aussi pourquoi on en est arrivé à rencontrer ce genre de personnes.
Oui, parce qu'il paraît qu'on les attire. On attire souvent les mêmes profils.
Oui, mais donc c'est pour ça que c'est important de comprendre ce qui s'est passé en amont pour pouvoir aussi arriver à s'en détacher.
Oui.
D'accord, c'est impressionnant. Il n'y a pas d'âge. Mais alors, chez l'enfant, quand il commence à devenir pervers, est-ce qu'il commence à entortiller ses parents ou ses amis à l'école ou... Il y a quelque chose comme ça qui peut se déclencher ?
La structure va se conditionner dans l'enfance et à l'adolescence, vraiment, oui, il va commencer à manipuler, à contrôler, à être dans cette perversion où il va faire du mal. Il va comprendre que c'est ça qui l'anime et il va après mettre en place ce fonctionnement-là. Il va figer ses mécanismes et ça va être du grand plaisir.
Hein, ce que je veux dire, est-ce qu'il prend plaisir
à
la souffrance de la personne qui est
là ?
Oui, parce qu'il est tellement rabaissé à la maison que s'il trouve une petite victime, c'est les harceleurs harcelés, hein, oui. S'il trouve une petite victime qui va se laisser faire, il va se sentir fort. Et en fait, ça va contrebalancer cette part de lui qui est complètement rabaissée à la maison.
D'accord.
Donc oui, de toute façon, c'est identificatoire. Mmh.
Et on peut subir ça toute une vie une vie de couple et se taire, ça existe aussi, non ? Des personnes qui, pendant 30 ans de mariage, jusqu'à ce que la mort les sépare.
C'est ça,
exactement.
Quelle horreur. Il y a aussi peut-être le mythe du prince charmant, parce qu'on se fait un peu entortiller,
ou
de la princesse, parce que les femmes aussi peuvent être perverses.
Ouais.
Donc vous pensez que les contes de fées ont des...
Tout à fait.
Une implication.
Ah oui, c'est complètement retranscrit à travers ça. Oh, oui.
C'est...
Le
prince charmant est un pervers narcissique.
On va refaire une conférence là-dessus.
Mais ça peut être intéressant parce qu'on est dans ces mythes quelque part.
Ah, c'est des codes, bien évidemment.
Et on nous plonge là-dedans.
Croyances, puis on y croit très longtemps au prince charmant.
D'accord.
Et on idéalise jusqu'au jour où on vit vraiment la situation et on comprend que non.
Le prince n'est pas très charmant.
Oui, c'est sûr. L'idée du couple où on est soumise, quand on est la princesse, qui font beaucoup d'enfants, je trouve ça toujours un petit
peu
spécial.
Mais il existe des hommes et des femmes très bien.
Oui.
Ça existe.
Heureusement. Non, mais c'est vrai qu'on a ce mythe encore. Oui. Beaucoup moins aujourd'hui, mais il y a une époque où c'était quand même très, très puissant, cette idée de l'homme, c'est le prince, la nana, c'est la princesse.
Ah, mais ça reste encore très actif. Au niveau sociétal, ça sort.
Et puis avant, il y avait certainement plus de cadres, plus de règles, on respectait plus la loi. Donc, ouais. Donc forcément, tout c'est, était plus cadré.
C'est une forme de rêve. D'accord, bah d'ailleurs, ils nous manipulent en nous faisant rêver un peu.
Bien sûr,
Il nous fait entrer dans cette espèce de rêve.
D'idéal. C'est le prince, il a tout. Ouais. Il a vraiment tout.
Et la torture aussi. Ouais. C'est une forme de torture, en fait.
Complètement.
C'est vrai que je me dis, comment on peut en sortir? Il faut vraiment avoir une force de caractère. On a le témoignage de la victime qui dit qu'à un moment, c'est ses amis, c'est ça? Qui, à force de lui dire « sors-toi de là, il y a un problème ».
La personne, si elle arrive à ne pas être totalement isolée, qu'elle a encore quelques amis, qu'elle a encore de la famille, parce qu'il est capable de faire tourner le dos à tout le monde, en fait.
Ouais.
Et si elle a cette chance d'avoir quand même quelqu'un qui peut la ramener à un comportement ou à une prise de conscience que c'est pas normal, petit à petit, elle peut s'en sortir, effectivement. Mais si elle est complètement isolée, je donne pas cher de ça.
Non, parce qu'il doit falloir un effort énorme, déjà, pour se dire « je suis vraiment victime d'un pervers narcissique, il faut que je m'en sorte, il faut que j'aille voir quelqu'un ».
Oui.
Parce qu'il faut faire cette démarche.
Pour passer la porte d'un thérapeute en disant, voilà, souvent, elles ne le disent pas ou ils ne le disent pas.
Mmh.
Ils nous disent, je vais très mal, je suis au fond, je suis seule, je ne sais plus comment faire, j'arrive plus à penser, je ne peux plus réagir, je ne sais plus quoi faire. Là, on sait...
Vous savez tout de suite à qui vous avez affaire, quoi.
Tout à fait.
Qu'il y a quelqu'un d'autre, quelque part, qui emprisonne. Vous voulez dire quelque chose, Christelle ?
Oui, je disais d'ailleurs souvent... ces victimes vont arriver dans les cabinets suite à des problématiques sur les enfants. Elles n'en peuvent plus de voir leurs enfants se faire maltraiter, ou dans le milieu professionnel suite à un burn-out. Parce que ça va être un peu le déclencheur qui va leur permettre en fait de rompre un peu le pattern et de pouvoir commencer à s'extérioriser ou à s'externaliser de la situation.
Donc finalement, cet accident du burn-out, ça peut être un bienfait quelque part
pour
sortir de ça. Oui, mais là, c'est vrai qu'il faut l'accompagner après, parce que pour s'en sortir de
burn-out,
ça fait des ravages aussi.
Tout à fait, nous sommes là pour ça.
Oui, ben,
moi, je rencontre aussi beaucoup de personnes qui ont mal, alors des maux physiques. Je ne peux plus, j'ai des maux de tête, j'ai mal au dos, qui tombent, c'est à répétition.
La fatigue, l'épuisement.
On est sur le côté du corps, somatisation. Et puis quand on va creuser, on va très légèrement creuser parce qu'il nous livre assez facilement la situation familiale.
D'accord.
Donc là, on est...
On a fait le tour. Vous voulez rajouter quelque chose?
Non.
On
le fera demain
soir. On le fera demain soir.
Alors Fabien insiste. C'est lui qui fait le son aujourd'hui. Dans le sport, il prend l'exemple de Lucas ou Laure Manaudou. Lucas Manaudou.
Ouais, Lucas qui a entraîné Laure Manaudou.
Lucas qui a entraîné Laure Manaudou.
Oui.
Voilà, il se demande est-ce qu'on a un fonctionnement de pervers narcissique dans ces cas-là.
Sur la notion d'épuisement, sur la notion de c'est cette notion-là que vous parlez.
Oui. On peut en trouver beaucoup dans le sport.
Les managers d'artistes aussi, peut-être, parce qu'on le flatte, puis on le force à faire des tournées. Oui.
Il maltraite un petit peu, l'artiste ou le sportif. C'est vrai qu'on peut retrouver, effectivement, cette notion de maltraitance, parce que Laure Manaudou, elle en a parlé, elle a été brisée suite... Après, je ne connais pas personnellement, pas le...
Non, j'ai pas trop
l'entraîneur.
Suivi...
Mais effectivement, le principe, il peut être... sur le versant du sport, c'est vrai qu'ils poussent et ils peuvent faire mal. Alors la maltraitance n'est pas pervers narcissique ou... c'est compliqué, je ne connais pas l'entraîneur.
Est-ce qu'il y a des codes qui permettent d'être sûr que c'est... Parce que ce qu'on décrit comme symptômes, là, beaucoup de monde, on a une partie... On séduit la personne, on croit que la personne qu'on aime nous appartient.
Il y a un
process, mais on n'est pas forcément un pervers narcissique dans ces cas-là. Il y a des clés qui permettent de dire.
Le
pervers, tout court.
Et après, le pervers, c'est l'étape au-dessus, mais on peut quand même, au fur et à mesure, reconnaître si c'est vraiment une organisation de la personnalité ou si c'est juste une personne qui ne pense qu'à elle. Et il y aura quand même à ce moment-là un petit peu d'empathie, alors que le pervers n'en a pas du tout.
Quoi qu'il en soit, la relation est toxique.
Mais
c'est aussi le thème de la conférence demain, les relations toxiques. Parce qu'il y en a énormément, il y a différents profils de relations toxiques.
Oui.
D'accord.
Oui, c'est... Après, le pervers narcissique a un process très identifiable, en fait. Hein, sur, quand on écoute et quand on travaille sur ce process, sur ce qu'on entend avec les victimes, c'est très cadré. Tout ce qu'il va mettre en place, c'est identifiable et c'est toujours pratiquement la même chose.
Voilà. Toujours la même phase. Un professionnel, quelque part, qui permet de le montrer, d'ouvrir les yeux sur ce fonctionnement, les étapes, etc. Parce que souvent, dans un couple, au début, on s'aime comme on est, et puis après, on veut changer l'autre.
Oui.
Donc, il y a un côté comme ça, c'est pas forcément être pervers narcissique, il y a quand même quelque chose qui fait qu'on veut manipuler l'autre pour qu'il devienne
comme
ce qu'on veut qu'il devienne.
Tout à l'heure, elle disait, on est au tout début, sur la phase de lune de miel, on est amoureux de l'amour.
Ben,
hein.
Oui, voilà.
Je t'aime, je te veux tout le temps, je veux tout découvrir. Et puis, il y a une deuxième phase où on atterrit, où on prend un peu de distance, on se dit, ah, ça me plaît pas, je vois les défauts, qu'est-ce que je fais? Je me rétracte, ok, je prends un peu de distance, c'est ce qui se passe en couple, mais au travail aussi. Hein. Je reviens vers toi parce que j'ai envie de découvrir encore plus et je sais ce qu'il faut que tu travailles, mais pas forcément ce que tu changes. Et puis, il y a la phase après de continuité.
Et puis, le jugement à la fin.
Oui.
Ces couples, ils disent, ah, il est comme ça ou elle est comme ci.
C'est
impressionnant. Non, mais c'est impressionnant
de se dire
que ça a démarré par une histoire d'amour et qu'on en arrive à ce jugement permanent.
Oui.
On est presque des rivaux ou des ennemis dans un même couple. Et, c'est toujours impressionnant.
L'humain, en général, on est fait pour être dans le jugement. On est né. Ah.
On a croqué la pomme, comme dirait l'autre.
Oui,
c'est un peu ça.
Ça dépend du degré.
Ouais.
Ça dépend du degré. Tout dépend.
Mais je dirais qu'un élément important, c'est que avec un pervers, il n'y a pas de communication. Il a toujours raison.
Ah oui.
Alors que même si on est dans une relation où on n'est pas toujours d'accord, etc., on peut communiquer, on peut se parler. Il peut y avoir des prises de conscience d'un côté comme de l'autre, des capacités à modifier aussi nos comportements quand finalement ils sont peut-être un petit peu trop excessifs. Dans une relation avec un pervers, ça n'existe pas.
C'est impossible.
Oui. Il y a cette idée qu'il n'entend pas.
Ah ben c'est pas qu'il
l'entend
pas,
ça glisse quoi.
Voilà. Il réceptionne pas.
Oui, il est parfait pour lui, donc à partir du moment où il est parfait, il n'a rien à changer.
J'imprime pas, comme disait.
Exactement. C'est l'autre qui a toujours tort.
Super. Ça vaut le coup d'être pervers, hein, parce que dans l'autre
cas.
Non, ça doit être dur à vivre aussi. Parce que
ce sont des gens qui souffrent quand même.
Oui, voilà,
qui ont une souffrance interne. Après, bon, ça n'excuse pas de faire du mal aux autres.
Parce que n'oublions pas, ça démarre quand même par des souffrances à l'enfance.
Oui, tout à fait.
Des coups durs, quoi. De la négligence ou de...
C'est ça.
Comment on appelle ça, de dire à quelqu'un qu'il est nul, enfin un enfant...
Bah, du dénigrement.
Voilà, du dénigrement, je ne trouvais plus le mot.
De l'humiliation.
D'accord. Bah, écoutez, si on veut en savoir un peu plus, il faut aller jusqu'à l'espace au maté.
C'est ça.
Vendredi.
Oui,
le
à
20h. On sera le 28, vendredi 28 novembre,
demain,
à 20h. L'espace au maté, c'est 179
rue du Ventoux,
à Saint-Saturnin, les Avignons. On vient à l'heure ?
Un petit peu avant pour être
bien
installé.
Oui, comme ça, on peut s'installer, etc. Puis sur l'occasion de découvrir l'espace au maté, qui est un très bel endroit où il y a plusieurs thérapeutes qui viennent régulièrement avec différentes pratiques et c'est
tout
très intéressant. Demain, comprendre les relations toxiques et comment s'en détacher avec Aline Didier et Christelle Marty, qui sont nos invités aujourd'hui. Merci à vous deux.
Merci beaucoup.